Je vous propose de vous entretenir d'un sujet très particulier, dans un livre très particulier qui est le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qu'on redoute un peu en général parce que c'est compliqué, on sait ce que ça veut dire. C'est un livre qui est écrit dans un genre littéraire très spécial qui s'appelle le genre apocalyptique et qui utilise énormément de symboles pour faire passer quelque chose. Et parmi ces symboles, il en est un que l'on trouve surtout à partir du chapitre 17, qui est celui de Babylone. Babylone, c'était une ville de Mésopotamie. Mais là, on va voir que l'Esprit de Jésus a révélé à Jean, son disciple, des choses très particulières au sujet de cette ville. Et je vous propose donc de lire directement. Déjà au chapitre 16, la fin du verset 19, donc Apocalypse chapitre 16, la fin du verset 19. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente.
D'accord, merci.
Et puis ensuite, on va lire dans Apocalypse 17, les sept premiers versets. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint parler avec moi. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les dix cornes. Donc, vous voyez, le sujet de la vision de Jean lui est annoncé, c'est le jugement de cette grande prostituée, de cette Babylone. Et notez d'ailleurs le terme utilisé pour désigner cette femme, la grande prostituée. Elle ne porte pas le qualificatif d'adultère, car elle n'a jamais été l'épouse de l'agneau. Et elle est assise sur de grandes eaux, symbole de la multitude des nations de la terre, mais pas directement comme on le voit. En réalité, elle est assise sur une bête dont la couleur symbolise le pouvoir royal, elle est écarlate. Cette bête nous est présentée une première fois déjà en Apocalypse 13, versets 1 et 2, vous pouvez vous y reporter. Apocalypse 13, un peu avant donc, au verset 1. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Sur ses cornes, dix diadèmes. Sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Donc vous voyez, cette bête est déjà connue, et c'est la même, c'est cette bête qui porte la prostituée. Et on voit qu'elle tient son pouvoir du dragon, c'est-à-dire du diable lui-même. Et c'est bien la même bête que celle d'Apocalypse 17, on la reconnaît à ses caractéristiques. Elle repose sur les eaux, c'est-à-dire son pouvoir est établi sur les peuples. Elle a 10 cornes et 7 têtes, et sur ses têtes des noms blasphématoires, donc c'est bien la même bête. Et au chapitre 17, il est dit qu'elle est pleine de noms blasphématoires. La femme de la vision est donc vêtue, on l'a vu, somptueusement. Notez qu'elle a les mêmes couleurs que la bête qui la porte, et elle tient à la main une coupe d'or. Dans la vision d'Apocalypse 5, verset 8, les 24 anciens, image du peuple de Dieu glorifié, se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or aussi, pleines d'encens, qui sont les prières des saints. En contraste, la coupe de la prostituée, elle, est pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et elle a un nom écrit sur son front, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vous vous souvenez que les esclaves de Dieu, eux, sont marqués au front du sceau du Dieu vivant. Selon Apocalypse 7, on avait vu ça une fois au cours d'une prédication. Et Jean voit cette femme manifestement ivre, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et la vue de cette femme frappe Jean d'un grand étonnement. Mais l'ange qui parle à Jean et lui montre cette vision va lui donner des explications. Donc on va lire la suite à partir, toujours dans le chapitre 17, à partir du verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, seront étonnés à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'intervient l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer un peu. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une seule heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui avec lui sont appelés choisis et fidèles. Un texte compliqué que je ne vais pas détailler. On voit que ces versets décrivent donc la bête écarlate elle-même, une description un peu complexe dont il faut retenir qu'il s'agit de royaumes et de rois, à l'évidence, donc de pouvoirs politiques, qui se sont succédés au cours des siècles, dès avant l'époque où Jean écrit ses lignes, mais aussi le pouvoir qui était en place à son époque, le pouvoir romain notamment. Et tous les pouvoirs ultérieurs qui se succéderont jusqu'au retour du Seigneur pour instaurer son royaume éternel. Retenons surtout les versets 13 et 14 de ce que nous avons lu. Ces rois ont un même dessein et donnent leur pouvoir et leur puissance à la bête, laquelle tient elle-même son pouvoir du dragon, c'est-à-dire de Satan. Et qu'ils feront la guerre à l'agneau, que l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et vaincront avec lui aussi ceux qui sont appelés choisis et fidèles, les croyants. C'est nous. Ces versets nous décrivent donc le pouvoir sur lequel la femme de la vision est assise. Il s'agit de pouvoirs politiques de ce monde qui sont caractérisés par leur agressivité envers Christ et les siens et qui seront finalement vaincus par le roi des rois. Et le texte nous dit aussi que les siens seront associés à sa victoire. Alors on va lire les versets suivants, à partir du verset 15. Il me dit, donc c'est l'ange qui parle à Jean, hein, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête, elles se mettront à détester la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. Car Dieu leur a mis à cœur, donc à ses rois, hein, Dieu leur a mis à cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qu'est la royauté sur les rois de la terre. Donc, on assiste à un renversement de situation. Le pouvoir politique sur lequel la prostituée est assise va soudainement se retourner contre elle, la dépouiller de ses vêtements somptueux, manger ses chairs, finalement la brûler complètement au feu. Il est dit que les 10 cornes, symbolisant donc le pouvoir politique, à un moment donné finiront par détester la prostituée. Il ne nous est pas dit pourquoi il passe ainsi de la fornication avec elle à la haine, mais qu'en tout cas c'est Dieu qui leur a mis à cœur d'exécuter son dessein. En d'autres termes, les politiques eux-mêmes se mettront à détester le système qu'ils ont mis en place. Et c'est le chapitre 18 qui nous décrit ce système et sur lequel nous allons nous attarder. Donc chapitre 18, les 2 premiers versets. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria, « elle est tombée, Babylone la grande !» Peut-être m'arrêter là, oui, voilà. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament disent exactement la même chose et ont prévu de cet événement, hein, la chute de Babylone. Ésaïe 21, verset 9, « elle est tombée, Babylone. Toutes les statues de ses dieux, il les a brisées à terre. » Vous voyez, c'est exactement la même expression qu'utilise l'ange dont Jean entend la proclamation. Et Ésaïe précise que le Seigneur a brisé à terre toutes les statues de ses dieux. À l'époque d'Ésaïe, comme 8 siècles plus tard à l'époque de Jean, l'idolâtrie corrompait les hommes et persécutait les serviteurs de Dieu, mais Dieu y mettra fin selon cette prophétie. Ésaïe 47, verset 12, Dieu indigné de Babylone lui dit « Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges. » En quelque sorte, elle est abandonnée par Dieu à son péché, comme cela est signalé à plusieurs reprises dans la Bible, quand on s'endurcit contre la volonté de Dieu. Le recours à l'occultisme est tout autant répandu de nos jours et il est connu qu'il corrompt largement ceux qui détiennent le pouvoir politique même de nos jours. Le prophète Jérémie, chapitre 50, verset 13, « À cause de la colère du Seigneur, elle, c'est-à-dire Babylone, ne sera plus habitée, elle sera entièrement dévastée. Quiconque passera près de Babylone sera atterré et sifflera d'horreur à cause de toutes ses plaies. » Donc on voit que le jugement de Babylone avait été annoncé à plusieurs reprises par les prophètes de l'Ancien Testament. Revenons à notre texte de l'Apocalypse, les versets maintenant 2 et 3. « elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur, un repère de tout animal impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elle et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Donc, vous voyez, on voit que Babylone symbolise toute l'impureté de ce monde, tout ce qui fait horreur à Dieu. Toutes les nations participent peu ou prou à son impureté. Les rois de la terre ont des relations impures avec elle. Et notez l'insistance sur la dimension économique des péchés de Babylone. Les marchands ont profité de son pouvoir pour s'enrichir. Les versets 4 à 8, j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle se dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, ses fléaux viendront, mort, deuil et famine, et elle sera jetée au feu. Car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Donc vous voyez, ces versets proclament le jugement terrible de la grande prostituée. Jugement en rapport avec la montagne de ses péchés, que la voix qui parvient à Jean décrit comme s'accumulant jusqu'au ciel. Et elle sera payée au double de ses forfaits. Et un aspect de ses péchés est révélé. Elle s'est complue dans la gloire et le luxe. Elle a mis sa confiance dans sa position de reine et de maîtresse des rois de la terre. Les versets 9 et 10. Tous les rois de la terre qui se sont prostitués et qui se sont complus dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de son tourment, ils diront « Quel malheur, quel malheur ! La grande ville, Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. » Donc les puissances politiques et économiques se lamentent sur la ruine de Babylone. On a même l'impression qu'ils reconnaissent que c'est un jugement de Dieu sur la folie du système qu'ils ont élaboré. En une seule heure est venu ton jugement. Là encore, les prophéties de l'Ancien Testament nous décrivent le caractère de Babylone. Par exemple, dans Isaïe 47, au verset 8, « Écoute maintenant ceci, voluptueuse, dit le Seigneur, qui est assise en toute sécurité et qui te dit, moi, rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. » Un peu plus loin, au verset 10, Isaïe dit, « Tu mettais ta confiance dans le mal que tu faisais et tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête et tu disais, moi, rien que moi. » Il est frappant de voir comment le prophète dénonce la folie du système qu'incarne Babylone. La folie de se croire en sécurité, la folie de l'égoïsme et la folie de mettre sa confiance en sa propre science. La folie aussi de s'imaginer que Dieu ne voit pas ses mauvaises actions. Personne ne me voit. Verset 11. De même, donc on a vu les rois qui se lamentent, là c'est une autre catégorie, de même les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elles, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet d'ivoire, de tout objet de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre, cannelle, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, des bœufs, des moutons, chevaux, chars, corps et âme d'humains. Je vais te dire jusqu'au verset 19. Le fruit mûr que tu désirais s'en est allé loin de toi. Toutes ces choses délicates et splendides sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus jamais. Les marchands qui se sont enrichis grâce à elles se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et mèneront deuil en disant « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tinrent à distance. Ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, « Qui était semblable à la grande ville ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils pleuraient, ils menaient deuil. « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville dont l'opulence a enrichi tous ceux qui ont des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle est devenue un désert. » Voilà, dans ces passages, donc, on a vu des lamentations. Cette fois-ci, des marchands, des armateurs qui vivaient du commerce de Babylone. Et Jean mentionne dans les versets 11 à 13 les objets, les denrées qui étaient l'objet du commerce et de leur transport à son époque. Alors vous avez vu qu'on y trouve beaucoup de produits de luxe. De nos jours, l'équivalent serait, outre ce qui est mentionné là et qui est toujours prisé, hein, les bijoux, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les parfums, tout ça. On y trouve des chevaux. L'industrie et le commerce du luxe ne se sont jamais aussi bien... on y trouve des palaces, excusez-moi, des voitures de luxe. Hein, notez qu'au verset 13, on mentionne les chars, les chevaux, etc. L'industrie et le commerce du luxe ne se sont jamais aussi bien portés que maintenant. Étonnant quand même, hein, dans la crise économique que nous traversons. J'ai entendu cette semaine à France Info qu'une société française de luxe bien connue a augmenté son chiffre d'affaires de 18% cette année. Ça peut surprendre. Mais aussi, on a vu qu'il y a des produits alimentaires, dont certains sont des produits de base, hein, comme les céréales, la viande, les huiles, dont on sait qu'ils génèrent un trafic mondial gigantesque et des profits tout aussi gigantesques. alors que la pauvreté et la disette n'ont jamais été aussi dramatiques qu'à notre époque. Les puissances dominantes monopolisent le trafic des denrées alimentaires et en tirent de grands profits, alors qu'une partie sans cesse croissante de la population mondiale n'a rien à manger. Et je voyais aussi à la télévision ces jours-ci, là, qu'en France, de nombreux cultivateurs sont obligés d'abandonner leurs exploitations en raison des prix qui leur sont imposés par la grande distribution. Ils ne peuvent plus boucler leur budget, des prix qui les conduisent à la faillite. Et vous avez peut-être été surpris de voir au verset 13, parmi les denrées de Babylone, quelque chose de très surprenant, des corps et des âmes d'humains. Le mot traduit par « âme » dans ma version, c'est le mot « psyché » en grec, hein, qui signifie aussi « vie ». Ça peut être des vies humaines. À l'époque de Jean, l'esclavage était le mode d'organisation dominant de la société. Savez-vous en quelle année il a été aboli en France ? Vous avez une idée ? 1848. 19e siècle, vous vous rendez compte ? C'est pas vieux, hein ? C'est pas vieux du tout. Et quelques années plus tard, le pape Pie IX signait une instruction du Saint-Office pour le justifier. Et il écrivait « L'esclavage en lui-même n'est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin. Il n'est pas contraire au droit naturel et divin pour un esclave qu'il soit vendu, acheté, échangé ou donné. » Vous voyez, c'est pas bien vieux tout ça. Mais il y a aussi une forme d'esclavage moderne qui bien sûr ne porte pas officiellement ce nom, mais qui y ressemble beaucoup. Chaque fois qu'au nom du profit, on exploite des travailleurs pour des salaires injustes, et même chaque fois qu'on prive les gens de leur travail au nom de la rentabilité, en délocalisant une activité industrielle par exemple. Donc les versets 14 à 19 que nous avons lus décrivent la stupeur et la désolation des marchands et des armateurs devant la ruine soudaine et totale de Babylone. On voit même qu'il mène deuil. La brutalité de l'effondrement du système est soulignée par ces mots. En une seule heure, elle est devenue un désert. Est-ce que cela n'évoque pas, par exemple, la faillite brutale de certaines banques qui jusque-là faisaient des profits faramineux ? En contraste avec ça, on continue notre lecture, le verset 20. Verset 20. « Sois en fait sur elle, ciel, vous aussi, saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors vous voyez, vous avez des gens qui mènent deuil sur la terre, les politiques et les industriels, les commerçants, et au ciel, c'est exactement l'inverse, on ne mène pas deuil, on fait la fête. Et les saints, apôtres et prophètes sont encouragés à se réjouir aussi parce que leur Dieu leur a rendu justice en détruisant Babylone. Verset 21, « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta à la mer en disant, « Avec la même violence, Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la trouvera plus jamais. » Ce verset donc affirme que le système représenté par Babylone est soudainement et définitivement aboli. On ne la trouvera plus jamais. Ce système économique pervers a trouvé son terme par intervention de Dieu lui-même. Une fois que la montagne est disparue dans la mer, on ne la voit plus. Hein. Et les versets 22 et 23 nous donnent une image vivante de la fin de ce système. On va les lire. On n'entendra plus jamais chez toi les joueurs de lyre, les musiciens, les joueurs de flûte ou de trompette. On ne trouvera plus jamais chez toi aucun artisan d'aucune sorte. On n'entendra plus jamais chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. Et on n'entendra plus jamais chez toi la voix du marié et de la mariée, parce que tes marchands étaient les dignitaires de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Et verset 24, chez elle, on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. On voit que le système politico-économique sur lequel ce bonheur, au moins pour certains, était bâti, était un système diabolique, symbolisé ici par la sorcellerie de la prostituée. Et aussi qu'on a trouvé en elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre pour leur foi. La persécution des enfants de Dieu caractérise le système de ce monde. Jésus en a bien prévenu ses disciples, dans Luc 21 par exemple. Il leur dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Un peu plus loin, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Chapitre 19, les 5 premiers versets. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant. Ils dirent une seconde fois « Alléluia ! Sa fumée monte à tout jamais !» Les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu, qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de fort tonnerre qui disait « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire. Donc une grande foule dans le ciel qui s'exclame de cette louange à Dieu, « Alléluia !» c'est-à-dire « Louez l'Éternel !» Et la cause de cette louange, c'est la joie profonde des êtres célestes, anges et rachetés, causée par la justice de Dieu qui vient de s'exercer d'une façon parfaite. Ils ont deux raisons de se réjouir de ce jugement. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution. Le verbe « ruiner », là, c'est un verbe en grec qui signifie au sens littéral « détruire », ruiner, et au sens moral « corrompre », dépraver. C'est probablement le sens moral qui est à préférer dans le contexte, car cela va bien avec tout ce qui est dit de la prostituée, qui se livre à un commerce marqué par la corruption et certainement aussi par des activités dépravées. Mais le sens littéral de ruiner, détruire, peut aussi signifier que cette activité commerciale corrompue et débridée se fait au détriment des équilibres écologiques et de la conservation de la planète. La deuxième raison, c'est « il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant ». C'est la réponse à la prière des martyrs que Jean a vue sous l'autel lors de l'ouverture du cinquième sceau au chapitre 6. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Dieu paraît tarder, mais sa justice s'exercera pleinement au temps décidé par lui seul et il fera justice à ceux qui ont refusé de porter la marque de la bête mais qui au contraire sont marqués du sceau de Dieu. Alors au terme de ce parcours un peu long, mais nécessairement succinct, sur la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous révèle de la grande prostituée? Comment pourrions-nous en cerner les contours? On a vu qu'elle symbolise une puissance économique dénuée de tout sens moral, qui ne vise que le profit et le luxe de quelques privilégiés, aux dépens des petits, de tous ceux qu'elle exploite sans vergogne. Je vous rappelle les paroles de l'apôtre Jacques au chapitre 5, verset 4. « Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe. » On a vu aussi que son pouvoir est assis, même littéralement, sur des pouvoirs politiques, eux-mêmes manipulés par le dragon, c'est-à-dire le diable. Et on a vu aussi que ces deux puissances, économiques et politiques, font la guerre aux serviteurs de Dieu, mais qu'elles seront finalement vaincues par l'agneau et les siens. On a vu enfin que ce système politico-économique mondial trouvera une fin soudaine, provoquée par un retournement de situation au sein même de cette coalition diabolique. Or, que voit-on de nos jours ? Une économie mondiale malade, apportant chaque jour son lot d'inquiétudes sur la pérennité même du système sur lequel elle est fondée. Un déséquilibre toujours plus grand et choquant entre l'opulence de quelques privilégiés et la détresse d'une partie de plus en plus importante de la population du globe. Un mépris et un piétinement des valeurs morales qui avaient été maintenues tant bien que mal pendant des siècles par le christianisme. Un renforcement de la persécution envers les chrétiens dans de très nombreux pays. Persécution qui a même, hélas, été le fait de l'Église elle-même en tant qu'institution au cours de son histoire. Qu'on se souvienne des ravages de l'Inquisition et des divers massacres chrétiens perpétrés par d'autres soi-disant chrétiens. Ce sont probablement tous ces traits qui sont ceux de la Grande Babylone. Alors que faire dans un monde ainsi corrompu et dont la fin est irrémédiablement programmée? Eh bien, c'est obéir à l'ordre du Seigneur, qui est celui-ci, Ésaïe 48, verset 20, « Sortez de Babylone !» Jérémie 50, verset 8, « Allez-vous-en de Babylone, sortez du pays des Chaldéens !» Jérémie 51, verset 6, « Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie !» Zacharie 2, verset 11, « Holà, Sion, échappe-toi, toi qui habites chez Babylone la Belle !» L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant. » C'était le sujet de ma dernière prédication. « Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et donc, le passage que nous avons lu en Apocalypse 18, verset 4, dit la même chose. « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. » On peut dire que le témoignage de l'Écriture est unanime sur la conduite à tenir. Nous n'avons cependant pas à nous alarmer de la situation dans laquelle nous sommes, étant dans ce monde caractérisé par l'esprit de Babylone, car notre Seigneur prie son Père pour nous, en Jean 17, verset 14 et suivant, « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc ne nous étonnons pas que les chrétiens soient persécutés. « Je ne te demande pas de les enlever du monde, dit Jésus à son Père, mais de les garder du mauvais. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » C'est là tout le paradoxe et toute la grandeur de notre position d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes exhortés à fuir le système qui le caractérise, et pourtant notre Seigneur nous y envoie. Comme lui-même a été envoyé par le Père, pour être cette lumière au sein des ténèbres morales qui y règnent. Prions. Seigneur, donne-nous d'être conscients, avec l'éclairage de ta parole, sur ce qu'est le monde dans lequel nous vivons. Que nous soyons capables d'identifier le véritable caractère de choses qui peuvent nous paraître légitimes ou anodines et qui en fait sont une abomination pour toi. Je prie aussi, Seigneur, que puisque tu nous envoies dans ce monde, nous puissions refléter, malgré l'opposition, malgré la persécution, malgré les risques possibles, toujours encourus, malgré tout cela, nous soyons cette lumière, jusqu'à ce que tu reviennes. Une lumière pour maintenir des valeurs morales, des valeurs spirituelles, pour dire non quand on nous propose des choses louches, pour refuser des compromis économique ou autre. Nous sommes dans ce monde, nous sommes bien obligés d'y vivre, mais Tu pries pour que nous soyons gardés du mauvais, du malin, de celui qui est derrière tout ce système et qui l'anime. Et nous savons que tu pries pour nous. Et nous savons qu'ainsi nous sommes en sûreté. Et nous te prions que nous manifestions donc ta lumière, Jésus, comme tu l'as dit dans les évangiles. Vous êtes la lumière du monde. Seigneur, vraiment, c'est notre prière. Que nous ne soyons pas quelque chose qui ne se voit pas, mais une lumière qui apporte la pureté, une lumière qui témoigne de toi envers et contre tout. Dans le nom de Jésus, amen.